Bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas eu encore l'occasion de saluer. Je suis très content d'être avec vous ce matin pour pouvoir ouvrir la parole de Dieu et pour pouvoir la méditer tous ensemble. En 2009, un homme nommé Terry Herbert faisait une promenade avec un détecteur de métaux dans un champ en Angleterre. Rien d'exceptionnel, juste un loisir comme un autre. Mais ce jour-là, son appareil s'est mis à sonner. Il a creusé et il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui, excusez-moi pour mon accent anglais très francophone, le Staffordshire Hoard, le plus grand trésor anglo-saxon jamais trouvé, composé de milliers d'objets en or et en argent datés du 7e siècle. Et cette trouvaille a profondément enrichi la compréhension de l'art de la guerre et de la religion dans l'Angleterre médiévale. Et ce qui est frappant, c'est que pendant des années, ce trésor était là, juste sous la surface, et personne ne le voyait. Des gens passaient au-dessus sans se douter de la richesse de ce qui se trouvait littéralement sous leurs pieds. D'une certaine manière, eh bien, c'est exactement le problème que Paul aborde dans l'épître aux Colossiens. Les chrétiens avaient déjà en leur possession quelque chose d'infiniment précieux, Jésus-Christ. Et pourtant, certains venaient leur dire, ce n'est pas suffisant, il vous faut autre chose, il vous faut plus de philosophie, plus de règles, plus d'expérience. Comme si en marchant au-dessus d'un trésor, finalement ils continuaient à le chercher ailleurs. Et alors je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans l'épître aux Colossiens et nous lirons le passage de Colossiens chapitre 2, les versets 8 à 15. Colossiens chapitre 2, les versets 8 à 15, et avant de lire, je vous propose tout simplement de prier. Notre Dieu, nous voulons ouvrir ta parole, nous voulons nous en imprégner et savoir encore ce que tu veux nous dire ce matin. Et nous aimerions te prier, Seigneur, que tu puisses nous aider à la comprendre et que tu puisses nous éclairer en la lisant, en la méditant, et que ton Esprit Saint puisse faire son œuvre en nous. Amen. Colossiens 2 à partir du verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans le monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Alors nous verrons ce matin, au travers de ce passage que nous venons de lire, que Christ est pleinement suffisant pour notre salut, et nous sommes en lui pleinement vivants et pleinement pardonnés. Alors Christ est pleinement suffisant. Tu pourrais passer, Daniel, s'il te plaît, la première slide. Merci beaucoup. Alors je voudrais revenir pour commencer sur le contexte de l'épître aux Colossiens. Je sais que plusieurs prédicateurs qui sont passés avant ont redonné le contexte de cette épître durant les messages précédents. Mais je me dis que si une personne prend le train en route, c'est bien, ça lui permettra peut-être de comprendre le contexte de cette épître. Et en même temps, reprendre le contexte de cette épître me paraît essentiel pour comprendre le passage que nous venons de lire. La ville de Colosse se situait en Asie mineure, donc dans l'actuelle Turquie, à 160 km à l'est de la ville d'Éphèse. Elle n'était plus qu'une modeste bourgade dans le 1er siècle après Jésus-Christ, et la population d'origine semble être phrygienne, mais par la suite, il y a des Grecs et une colonie juive qui se sont installés à Colosse. Donc on voit déjà qu'il y a un mélange de cultures. Et à l'époque où Paul écrit sa lettre, on trouve des chrétiens dans les trois cités de Laodicée, Hiérapolis et Colosse. Et on voit que si on prend une carte, ces trois villes étaient vraiment proches les unes des autres. Et ces communautés semblaient entretenir des liens étroits. L'église de Colosse a vraisemblablement été fondée par Épaphras, un compagnon d'œuvre de Paul, lorsque Paul, lui, était à Éphèse, donc à 160 km à l'ouest, d'environ dans les années 53 à 56. Et il semblerait que Paul ne se soit pas rendu dans les villes de Colosse, Hiérapolis et Laodicée. Mais Paul et Épaphras sont à l'origine de l'expansion de l'Évangile en Asie mineure. Et quand nous lisons cette lettre, nous sommes environ en 60-62 après Jésus-Christ. Et Paul est en prison à Rome. Il est en prison avec Épaphras, son compagnon d'œuvre, et Aristarque. Et Épaphras a informé Paul de la situation que traverse l'église de Colosse. Des faux enseignants se sont introduits dans l'église de Colosse et ont des idées non conformes à l'enseignement des apôtres. Épaphras a laissé un de ses amis, Archip, qui assume probablement la responsabilité de l'église par intérim. L'église de Colosse est relativement jeune, elle a peut-être tout au plus 7 ou 8 ans. Paul va donc leur écrire pour réaffirmer les bases du message de l'évangile. Il va écrire dans le même temps une lettre personnelle à un des membres de l'église de Colosse qui s'appelle Philémon, et on retrouve l'épître de Philémon dans l'église, au sujet d'un esclave qui s'appelle Onésime. Et c'est Tychique, encore une autre personne, qui va ramener cette lettre à Philémon et qui va aussi être accompagné d'Onésime que l'apôtre renvoie à Philémon. Et la lettre aux Éphésiens, qui présente des grandes similitudes à la lettre aux Colossiens, a probablement été écrite dans le même temps. Donc on se retrouve avec trois épîtres écrites pratiquement dans le même temps entre l'épître aux Colossiens, l'épître à Philémon et l'épître aux Éphésiens. Et si maintenant on se concentre sur l'épître aux Éphésiens, et bien tout au long de son épître, l'apôtre Paul ne réfute pas point par point les faux enseignements qui sont donnés à l'église de Colosse. Mais en lisant son épître, on peut tenter de les retrouver au fil de son argumentaire. Alors, le premier point, si tu pourrais passer la slide s'il te plaît. Merci beaucoup. La première hérésie semble toucher à la personne de Christ, car Paul va éprouver le besoin de souligner en tout point de vue la supériorité de Christ dès le début de sa lettre et d'encourager les Colossiens à rester attachés à lui. Le second point que l'on peut souligner, c'est qu'on a vraisemblablement présenté une nouvelle sagesse aux Colossiens. Et cela vient de l'influence grecque et les systèmes gnostique, du grec gnosis qui veut dire connaissance, enseigneront au deuxième siècle après Jésus-Christ l'existence d'un Dieu, mais sans relation avec le monde matériel, éloigné de l'homme. Et entre ce Dieu et l'homme se trouverait une hiérarchie d'êtres intermédiaires qui ont créé le monde. Ces systèmes gnostiques souligneront aussi l'intervention d'un ou plusieurs sauveurs. La matière étant mauvaise, l'homme aurait donc besoin d'être sauvé du monde matériel, délivré de son corps et d'être élevé vers Dieu. Ce salut s'obtiendrait par la connaissance du système gnostique, avec la hiérarchie entre les hommes et Dieu, et serait réservé uniquement à des initiés, contrairement à ce que Paul cherche à défendre. Le message de l'Évangile est pour tous et sans condition. De plus, le dénigrement du corps et de la matière devait remettre en question l'humanité de Christ. Et c'est certainement pour cela que Paul insiste dans le passage que nous avons lu ce matin, et ces versets prennent sens vu le contexte. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Troisième point que Paul cherchera à réfuter, c'est que la mention des trônes, autorité, puissance céleste, seigneurie, révèle certainement une influence de l'astrologie orientale sur le monde gréco-romain, qui pensait que le monde est dirigé par des puissances astrales. Quatrièmement, il y avait une influence du judaïsme qui se faisait sentir dans leur rigueur à observer la loi, notamment la circoncision. Et on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, cinquièmement, l'hérésie comprend certainement une part de mysticisme avec un culte des anges et une recherche de vision. Et c'est dans ce contexte que Paul, dans le texte que nous avons lu ce matin, nous présente le salut que Dieu offre à travers son Fils, Jésus-Christ, à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, en nous disant que nous avons tout pleinement en lui. Nous n'avons rien à ajouter, rien à enlever. Le chemin que nous cherchons pour nous approcher de Dieu se situe en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Nous vivons dans un monde où on nous présente de multiples choix pour notre spiritualité. Cette situation n'est pas nouvelle. Déjà au 1er siècle, les chrétiens de Colosse faisaient face à une confusion similaire. Dans l'épître aux Colossiens, l'apôtre Paul met en garde contre des enseignements séduisants, qui semblaient profonds, spirituels, convaincants, mais qui en réalité éloignaient de l'essentiel. Car le danger n'est pas toujours ce qui est évidemment faux. Le danger, c'est ce qui souvent peut paraître presque vrai, mais qui finalement va détourner subtilement de la personne de Christ. Alors Paul adresse un avertissement clair. Prenez garde. Comme un signal d'alarme valable encore pour nous aujourd'hui. Et en même temps, il ne se contente pas de dénoncer l'erreur. Il nous ramène à une vérité fondamentale, libératrice. Tout est en Jésus-Christ. Rien ne manque, rien n'est à ajouter. Je pense que vous serez certainement d'accord avec moi que quand je vous dis qu'on a presque eu son train, c'est que finalement on l'a raté. Quand on fait du tir à l'arc, la flèche peut arriver tout près de la cible sans pour autant l'atteindre. Et bien concernant le message de l'évangile, certains enseignements peuvent paraître justes, bibliques, sans pour autant mettre Jésus-Christ au centre, et alors le message devient faux. Il existe des faux évangiles. Ils ne se présentent pas comme des mensonges évidents. Au contraire, ils contiennent souvent une part de vérité, mais ils déplacent le centre. Et au lieu de Christ, ils mettent autre chose. C'est pour cela qu'il est important aussi de nous questionner régulièrement sur les bases de notre foi et de nous poser la question « Sur quoi, ou plutôt sur qui, je base ma confiance ?» Nous pouvons penser par exemple que notre valeur dépend de ce que nous faisons, de notre performance dans notre ministère, de notre manière de prier, de servir, de notre ligne conductrice morale. Et petit à petit, nous pouvons vivre alors dans la pression pour que Dieu continue de nous aimer suite à ce que nous faisons. Nous pouvons également, même en tant que chrétiens, vivre comme si tout dépendait de nous et chercher des solutions humaines avant de se tourner vers Christ. Est-ce que quelque chose a pris la place de Jésus-Christ dans ma foi? Et la question devient alors, est-ce que je vis comme si Jésus était suffisant, ou comme s'il me manquait encore quelque chose? Et c'est là que le message de Colossiens 2 devient libérateur. En Christ, rien ne manque. Alors, le deuxième point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que en Christ, nous sommes pleinement vivants. Le projet de Dieu est depuis toujours de se constituer un peuple. Et lorsqu'il a appelé Abraham, c'est pour faire alliance avec lui et se créer un peuple. Un signe est donné alors à Dieu, à son peuple, celui de la circoncision, où on coupait le prépuce de l'organe reproducteur masculin. Je ne pense pas que ce soit un hasard que ce signe soit fait sur l'organe qui donne la vie. Dieu souhaite une alliance où lui vient donner la vie. Et cette alliance devait se perpétuer de génération en génération pour que Dieu puisse se constituer un peuple d'adorateurs. La foi n'est pas seulement intérieure, elle touche aussi le corps et la vie quotidienne. Cependant, on constate que Ismaël, bien que descendant physique d'Abraham, a été également circoncis. Mais il n'a pas eu part à l'héritage spirituel. Isaac était l'enfant élu de la promesse, Ismaël était dans l'alliance, mais seulement de manière extérieure, bien que les deux soient circoncis. Ainsi, on voit dans l'Ancien Testament que le signe de la circoncision n'était en lui-même pas suffisant pour se revendiquer du peuple de l'Alliance de Dieu. Et d'ailleurs, Dieu appellera son peuple à opérer une circoncision dans leur cœur et à ne plus se rebeller contre Dieu. Dans le livre du Deutéronome, on peut le voir, mais également aussi par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Et le cœur dans la Bible fait référence au centre de la personne pour exprimer l'idée d'intériorité. Il s'agit du siège des pensées, de l'intelligence. C'est lui qui prend les bonnes ou les mauvaises décisions. Il est également le siège de nos sentiments, du courage. C'est quelque part, finalement, le centre de contrôle de notre être. Et la circoncision dont parle Paul est une circoncision qui a été faite, mais si on regarde dans le passage de Colossiens, non par les hommes, contrairement à celle qu'a pu recevoir Abraham, mais elle a été faite par Dieu. Et c'est la grande différence fondamentale. Et dans son épître aux Romains, il va écrire « Mais ce qui fait le juif, c'est ce qui est intérieur. Et la vraie circoncision est celle que l'esprit opère dans le cœur, et non celle que l'on pratique en obéissant à la lettre de la loi. » Ainsi, la vraie circoncision telle que Dieu la voit, c'est celle que lui opère, non plus sur notre corps, mais dans notre cœur, par l'intermédiaire du Saint-Esprit qu'il nous donne à notre conversion. Et quelle en est la conséquence? La circoncision consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Et dans l'Épître aux Romains, Paul écrit « Comprenant donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Ainsi, le pouvoir que le péché avait sur nous est réduit à néant. Il ne peut plus nous entraîner vers la mort. Qu'avons-nous fait pour cela? Rien du tout. Nous avons simplement placé notre confiance et notre foi en Jésus-Christ. Mais c'est Jésus-Christ qui a tout fait. Sa mort devient la nôtre et sa résurrection devient la nôtre. C'est la pure grâce de Dieu et ce n'est rien d'autre. » Et au verset 12 du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, Paul décrit ce qu'est le baptême, tel que nous avons pu aussi le vivre dimanche dernier. « Vous avez été ensevelis avec Christ par le baptême, et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscité avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. » Nous avons ici l'image de l'immersion, nous avons été ensevelis avec Christ et celle de la résurrection de Jésus-Christ qui devient la nôtre également quand le baptisé sort de l'eau. Le verset 13 souligne le contraste de notre vie avant que Jésus-Christ vienne nous chercher et après qu'il nous ait sauvés. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Alors vous avez peut-être certainement déjà vu des séries télévisées qui se passent dans le milieu hospitalier comme Dr. House ou Grey's Anatomy ou autres. Et on voit régulièrement des médecins qui, face à un encéphalogramme plat, essaient de ranimer ou de faire revenir des personnes qui sont en train de mourir. Les médecins restent impuissants, car finalement, la vie ne leur appartient pas. Ils ne peuvent pas savoir avec certitude si la personne va revenir. Paul nous dit clairement que notre encéphalogramme était plat. Nous étions morts à cause de notre péché. Mais Dieu nous a donné la vie avec Christ. C'est le seul qui peut nous faire passer de l'état de mort à l'état de vivant et personne d'autre. Concrètement, cela veut dire que quand nous sommes à la maison, au travail, en voiture, en vacances, avec nos amis, dans une situation heureuse ou difficile, eh bien nous avons avec nous quelqu'un de semblable à Christ qui est là pour nous conseiller, nous consoler, qui garantit, qui nous rappelle que nous appartenons à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Souvenons-nous de cela quand nous traversons des moments difficiles ou de doute. Souvenons-nous également de cela quand nous sommes tentés par le péché et que nous avons besoin du secours de Dieu. Souvenons-nous de la promesse de Dieu que nous pouvons en voir dans le psaume 50 au verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. » Le secours de Dieu est garanti, mais elle est liée à l'acte d'appeler et de se tourner vers lui. La grâce de Dieu est toujours disponible, et ce serait dommage de passer à côté, alors qu'il n'a pas placé son esprit à côté de nous, mais qu'il l'a placé en nous. Et le troisième point que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que, en Christ, nous sommes pleinement pardonnés. En suivant l'actualité, on peut voir des personnes, qu'elles soient publiques ou non, qui sont accusées au tribunal et qui sont jugées en fonction des inculpations, c'est-à-dire en fonction des choses qui leur sont reprochées. En général, quand une personne se présente devant le juge et a plusieurs chefs d'inculpation avec des indices graves et concordants, on se dit que sa culpabilité sera inévitablement reconnue et que sa condamnation est certaine. Paul écrit dans l'Épître aux Colossiens que Dieu nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Nous avions un acte de condamnation. Alors, qu'est-ce qui pouvait bien être écrit dessus ? Un mensonge, une pensée que j'entretiens qui est non conforme à Dieu, une convoitise, la vérité cachée ou arrangée, un vol, aussi petit qu'il soit, une colère, un mot plus haut que l'autre. Rien qu'à l'échelle d'une journée, il y a de quoi écrire, selon les règles de Dieu, un acte d'accusation. Et alors j'imagine qu'à l'échelle de ma vie, je pense que mon acte d'accusation devant Dieu serait contenu dans des bibliothèques entières. Et inévitablement, je suis condamné et il est impossible de démontrer mon innocence devant Dieu. La loi de Dieu est dure, impitoyable. Et durant le sermon sur la montagne, voici ce que Jésus a dit. On retrouve le passage de Matthieu 5, versets 21 et 22. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Donc à ce stade-là, on peut se dire qu'on respecte la loi de Dieu si on n'a pas commis de meurtre. Jésus continue. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère en répondra devant le tribunal. Donc là on voit que Jésus met la colère au même niveau que le meurtre. Et celui qui dit imbécile passera devant le grand conseil, et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Jésus met en lumière ici le fait que si on veut respecter le sixième commandement « tu ne commettras pas de meurtre », il faut prendre le mal à la racine et s'occuper de la cause du meurtre, notre colère. Et le sixième commandement deviendrait alors « tu ne te mettras pas en colère contre ton frère ». Qui d'entre nous ne s'est jamais mis en colère ? Je pense que nous répondons tous à ce chef d'inculpation et devrions alors être condamnés pour meurtre. D'où nous vient cette colère? De l'état de notre cœur, du centre de contrôle de notre être, finalement. D'où l'importance de recevoir de la part de Dieu cette circoncision de notre cœur. Jésus voulait simplement démontrer que nous ne pouvons pas seuls respecter la loi et encore moins démontrer notre innocence, et que nous avons besoin par-dessus tout de la grâce de Dieu, et nous avons besoin de rien d'autre que de la grâce de Dieu. Comme la loi devait être accomplie aux yeux de Dieu, eh bien Dieu a effacé notre acte de condamnation en clouant Jésus sur la croix. Notre culpabilité, notre péché est retombé sur lui. Dieu a été satisfait, car le problème du péché a été résolu et le péché a été payé. Et puis un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, Jésus raconte la parole du serviteur impitoyable, l'histoire d'un roi qui veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Un serviteur lui doit une somme énorme, impossible à rembourser, incapable de payer, alors ce serviteur supplie le roi d'avoir patience. Et touché par ce serviteur, eh bien le roi fait bien plus que patienter, il lui remet toute sa dette. Et juste après, ce même serviteur rencontre un autre serviteur qui lui doit une toute petite somme. Il refuse toute pitié, il l'étrangle presque, et le fait jeter en prison, malgré ses supplications. Et quand le roi apprend cela, il se met en colère. Il reproche au serviteur d'avoir refusé de faire preuve de la même compassion que lui-même avait reçue. Il annule son pardon et le livre au bourreau jusqu'à ce qu'il rembourse tout. Jésus, dans la prière du Notre Père, a dit « Pardonne-nous, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » C'est d'ailleurs ce qui a été vu il n'y a pas longtemps au Cercle du Feu, au flambeau. Et ce que je disais à ma fille, c'est que c'est peut-être très simple à comprendre, mais alors, c'est ce qu'il y a de plus difficile à mettre en œuvre. Est-ce que nous savons pardonner à notre prochain alors que nous avons offensé Dieu bien plus que nous avons été offensés et que nous avons été pardonnés? Dieu attend de nous que nous pardonnions aux autres comme nous-mêmes on a été pardonnés. Et refuser de pardonner est incompatible avec la grâce que nous avons reçue. Mais pour cela, nous avons besoin que Dieu travaille notre cœur. Nous avons besoin que Dieu vienne opérer ce pardon dans nos cœurs. Et sans l'aide de Jésus-Christ, eh bien c'est tout simplement impossible. Alors pour conclure, je voudrais simplement relire le verset 15. Là, c'est-à-dire à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Ce verset nous donne une image puissante. Christ a dépouillé les puissances, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Autrement dit, ce qui nous accusait, ce qui nous tenait liés, ce qui nous condamnait a été définitivement vaincu. Pas partiellement, pas provisoirement, mais définitivement. La croix n'est pas une simple tentative, mais c'est une victoire complète et totale. Et si Christ a vraiment remporté cette victoire, alors cela change tout. Cela veut dire que Christ est pleinement suffisant. Nous n'avons rien à ajouter à son œuvre. Notre salut est pleinement accompli. Amen.